Mercredi, je vous dis pas bonjour, et comme chaque mercredi, c'est spécial ciné avec les films projetés au cinéma. Il est en compagnie de Martine. Bonjour Martine.
Bonjour Roland, bonjour tout le monde.
On commence avec le premier film, c'est L'île aux chiens.
C'est une réalisation du grand Wes Anderson. C'est un conte merveilleux, on va le dire, un chef-d'œuvre esthétique, qui raconte qu'en raison d'une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville. Ils sont envoyés sur une île qui devient alors l'île aux chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l'île pour rechercher son fidèle compagnon, Spot. Aidé par une bande de 5 chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville. Alors, dans ce film, il y a tout ce qu'on aime du cinéma de Wes Anderson. Tout est réuni dans L'île aux chiens. Il y a l'imagination, la fantaisie, une réflexion humaniste et s'ajoute la virtuosité de l'animation en stop motion, la perfection et la beauté de l'image. Que dire de plus? Eh bien que d'avoir situé l'épopée des héros à quatre pattes au Japon nous plonge dans la culture et les légendes nippones en découvrant l'art du théâtre de marionnettes. Et que, au-delà des aventures captivantes, en toile de fond, apparaît toute la détresse des populations en exil devant l'intolérance de notre monde, ce qui apporte une dimension politique et universelle à cet univers poétique et rappelle la force de l'amitié. C'est drôle, c'est foisonnant, c'est unique de beauté et de poésie. Donc, bien entendu, vous foncez...
À quatre pattes.
À quatre pattes ou à deux pattes.
Voir L'île aux chiens.
Voilà, c'est magnifique, c'est une réalisation extraordinaire.
L'île aux chiens, c'est aujourd'hui au cinéma, il est dès 16h. Martine, ça n'a rien à voir, un film de science-fiction, c'est Ready Player One, le gros carton.
C'est le gros carton, le dernier Spielberg. Il avait fait, rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, Pentagon Papers. Et là, pouf, il nous sort un autre film. Il est très productif. C'est une réalisation très différente de Pentagon Papers, bien sûr, mais tout autant inspirée, originale et vraiment virtuose. C'est avec Ty Sheridan, Olivia Cooke et Ben Mendelsohn. On se retrouve en 2045. Le monde est au bord du chaos, les êtres humains se réfugient dans l'Oasis, un univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'Oasis.
Et forcément, c'est la course.
Voilà, alors l'appât du gain provoque une compétition planétaire, mais lorsqu'un jeune garçon, Wed Watts, qui n'a pourtant pas le profil d'un héros, décide de participer à la chasse au trésor, il est plongé dans un monde parallèle, à la fois mystérieux et inquiétant. Alors j'ai lu pas mal de choses dans la presse, que c'est un grand film, profond et spectaculaire, du cinéma à l'état pur, comme lui seul, Spielberg, sait en faire. On en parle comme d'un film essentiel, mêlant passé et futur, réel et virtuel, en même temps bourré d'aventures, d'actions, d'idées, d'effets spéciaux, de culture pop, surtout beaucoup de culture pop, de paysages éblouissants et également un magnifique divertissement réalisé par un cinéaste de 71 ans
qui s'est amusé.
Il y a mis tous ses souvenirs et ses jeux de gamin et la somme de toutes ses références de jeux pour son propre plaisir et ça devient notre plaisir. C'est un film qui est beau, étourdissant, jubilatoire, qu'il faudra sans doute voir une seconde fois.
Complètement, Martine.
Parce que il va falloir repérer.
Il y a plein de références.
Repérer et compter, oui, tous les jeux évoqués et toutes les références.
Les personnages ont passé des meilleurs.
C'est très riche.
Exactement, Martine. Ready Player One. C'est aujourd'hui au cinéma, il est mercredi 9 mai, dès 18h. Place publique, c'est pour la suite.
C'est une réalisation d'Agnès Jaoui, avec Agnès Jaoui, et bien sûr Jean-Pierre Bacri et Léa Drucker. Ça, c'est les trois personnages principaux. C'est une pendaison de crémaillère dans une propriété, je cite, à 35 minutes de Paris, chez une productrice d'émissions de télévision, où se retrouve la sœur de la dite productrice, qui est tiers-mondistes engagés dans des œuvres humanitaires et occupés à récolter des signatures pour des pétitions. Il y a son ex-mari, qui est une star un peu déjà déchue du petit écran.
Un petit peu has-been.
Un peu has-been, aigrie, égocentrique, anxieux de se voir vieillir, d'où la moumoute pathétique qu'il a sur le crâne, jaloux de sa belle et jeune compagne. Et puis, il y a également leur fille, Nina, qui exprime dans ses romans tout son sentiment d'abandon. Alors, autour de ces bobos médiatiques et médiatisés, s'agitent serveurs, chauffeurs, vedettes éphémères de réseaux sociaux, des jeunes excités de selfies qui font partie du paysage et qui forment le fond d'écran, en quelque sorte, de cette petite scène théâtrale qui nous fait partager quelques heures de ces quatre personnages qui vont prendre conscience, mais juste fugitivement, l'une de sa superficialité, l'autre que son tour est passé, la troisième qu'elle n'a pas pris le temps de s'intéresser à sa fille, et celle-ci, sa fille, que l'attention et la générosité de sa mère étaient plutôt carrément tournées vers d'autres déshérités. Alors, il y a du jeunisme, du parisianisme, tout ce petit monde fait trois petits tours en recherche de notoriété et d'amour, et puis ils s'en vont comme ils sont venus, amers, déçus ou indifférents, sur l'interprétation par Bacri, une interprétation un peu étonnante des feuilles mortes, et il rejoue Yves Montand, et également Bachung avec Osée Joséphine. C'est un peu surprenant, mais c'est assez beau et nostalgique. Alors, on sourit volontiers de la vacuité de ce petit monde superficiel grâce à des dialogues brillamment écrits, savoureux, bien envoyés. On a une tendresse pour ces personnages médiocres qui se voudraient Célimène et Alceste parce qu'il s'agit de Léa Drucker qui est vraiment excellente, Daniel Jaoui et Jean-Pierre Bacri qu'on adore, et puis on adore retrouver leur humour. Mais évidemment, on aurait aimé avoir un peu moins de clichés, un peu moins de déjà-vu dans les situations, et un peu plus d'ambition et de complexité. Alors finalement, c'est le personnage de la fille qui a le premier rôle, enfin à mon sens, le rôle de l'adulte romancière dont les parents occupés par eux-mêmes n'ont pas réussi même à feuilleter quelques pages de ses livres. C'est le seul personnage touchant de cette comédie humaine acide. Alors, c'est peut-être pas suffisant pour avoir un vrai plaisir de cinéma, parce que la mélancolie qui plane dans ce film contamine un petit peu les spectateurs.
Place publique, c'est aujourd'hui au cinéma, il est dès 21h ou bien le samedi 12 mai à 18h. Ça n'a rien à voir, Martine, c'est Pierre Lapin.
C'est réalisé, une réalisation de Will Gluck. C'est une adaptation des livres de Beatrix Potter avec les enfants, les aventures de Peter Rabbit, Pierre le petit lapin. Et c'est à partir de 5 ans. Alors, vous qui avez aimé les bouquins de Beatrix Potter, bien entendu, vous les avez beaucoup lus à vos enfants. Vous allez emmener les 10 enfants voir Peter Rabbit, le petit lapin. Et c'est très joli.
Pierre Lapin, le jeudi 10 mai, dès 16h, au cinéma, il est Escobar Martin pour la suite, en version originale sous-titrée.
Oui, c'est rude ça. C'est une réalisation de Fernando León de Aranoa, qui retrace la vie de l'empereur de la cocaïne, Pablo Escobar. Évidemment, c'est pas un héros très sympathique, hein, c'est clair, puisque c'était l'impitoyable et très cruel chef du cartel de Medellín et qui a mis à feu et à sang la Colombie dans les années 80. Il a accumulé d'ailleurs, on signale qu'il avait une fortune de plus de 30 milliards de dollars, rien qu'avec le commerce de la drogue. Bon, donc voilà, c'est avec Penélope Cruz, Javier Bardem et Peter Sarsgaard. Donc je dirais que si on veut le voir comme un documentaire, c'est bien fait, c'est impressionnant. Hein. Mm-hmm. C'est impressionnant tout de même parce que le personnage est tout de même une espèce de
tyran.
De tyran extraordinaire avec une force physique et mentale finalement qui impressionnait tout le monde. Je pense qu'il faut le voir comme un documentaire parce qu'il faut avoir connu ça. Finalement, c'était des années terribles. La Colombie en sort à peine, finalement.
Escobar, en version originale sous-titrée, ce jeudi 10 mai à 18h ou bien le lundi 14 mai à 21h. Larguez Martine pour la suite au cinéma. Il est.
Eh bien, c'est une comédie de Héloïse Lang avec Miu Miu, Camille Cotin et Camille Chamou. Ces deux sœurs, Rose et Alice, qui ne se ressemblent vraiment pas puisque l'une est hyper libre et rock'n'roll, l'autre raisonnable et responsable, elles ne sont jamais d'accord, sauf quand il s'agit de remonter le moral de leur mère que leur père vient de quitter pour une jeunesse. Alors, il y a quelques bonnes idées, des personnages loufoques, des situations absurdes, des actrices qu'on aime bien et qui sont bien choisies. Alors, évidemment, bon, c'est pas un film extrêmement original. C'est sauvé par la fin. La fin est pas mal du tout, donc je vous en dis pas plus. Vous allez aller le voir. C'est amusant. Bon, je dirais,
une bonne comédie.
C'est une gentille comédie, voilà.
Largué le jeudi 10 mai à 21h au cinéma. Il est Sherlock Gnome Martin pour la suite au cinéma. Il est
un film d'animation de John Stevenson dans lequel les nains de jardin jouent et préparent l'arrivée du printemps.
Et ben voilà.
Et voilà. Mais alors évidemment, qu'est-ce qui se passe là? C'est qu'ils se mettent à disparaître un par un mystérieusement. Évidemment, il va y avoir le célèbre détective Sherlock Gnome qui va arriver à la rescousse. Voilà, c'est pour les petits.
Sherlock Gnome à découvrir.
Oui, c'est Sherlock Gnome ou Gnomes, si on veut parler de Sherlock Holmes. Donc, je ne sais pas comment vous le prononcez.
Le vendredi 11 mai, dès 16h, au cinéma, il est Avengers Infinity War Martin pour la suite.
Formidable.
Un
mais
film de science-fiction.
Il paraît que c'est moins bien que les autres. Moi, c'est mon petit-fils qui m'a dit ça. Il m'a dit, ouais, c'est moins bien.
Je suis plutôt d'accord avec lui.
Voilà, hein, n'est-ce pas?
Il y a pas mal de longueur,
enfin,
quand même.
Bon, c'est les Avengers. Donc, ceux qui aiment, ils iront. C'est de Joe Russo avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth et Chris Evans. 2h30 d'aventure et d'action pour les Avengers et leurs alliés qui sont prêts à tout sacrifier pour neutraliser leur redoutable Thanos. Ce redoutable Thanos qui projette une attaque éclair pour
exterminer les humains.
Pour détruire l'univers. C'est
exactement
toujours la même histoire. J'ai l'impression de me répéter indéfiniment.
Mais
c'est les Avengers.
Voilà,
allez,
c'est ça, ouais. Avengers Infinity War le vendredi 11 mai dès 18h ou bien le dimanche 13 mai à 16h. La révolte des jouets, c'est aussi au cinéma. Il est cette semaine, Martine.
C'est pour les petits bouts de chou.
Exactement.
À partir de 3 ans. Une animation composée de 3 courts-métrages dans lesquels les jouets prennent vie et s'amusent ensemble. Ou alors ils aident un bébé qui a du mal à s'endormir. Ou encore ils s'unissent pour chasser quelqu'un qui leur déplaît. Alors après la séance qui est assez courte, 35 minutes, il y a atelier et on peut apporter son joujou préféré et l'animer comme dans le film.
Atelier avec Fanny. La révolte des jouets, c'est le samedi 12 mai dès 16h. Ça n'a rien à voir. C'est Love Addict Martin au cinéma. Il est.
Oui.
Avec Kev Adams, entre autres.
Voilà. Alors, c'est réalisé.
Oh, la motivation.
Oui, je ne suis pas franchement motivée, mais ceux qui aiment Kev Adams, ils vont y aller. C'est réalisé par Franck Belloc, avec Kev Adams, Mélanie Bernier et Marc Lavoine. Bon, je dirais que Marc Lavoine, il fait venir au cinéma, hein, tout de même. Alors, c'est l'histoire de Gabriel, qui est un love addict, un amoureux compulsif des femmes. Un sourire, un regard, un parfum et pof, il craque. Alors à force de dérapages de plus en plus acrobatiques entre sa vie sociale et sa vie professionnelle, Gabriel est totalement grillé. Alors il est tout de même bien décidé à changer, ou du moins essayer de changer. Il recourt au service d'une agence de minder, une sorte de coach personnel sur Internet. Et c'est Marie-Zoé, aux méthodes très atypiques, qui va prendre en main le cas de Gabriel pour une thérapie de choc. Voilà, écoutez, je n'ai pas grand-chose à en dire.
Une comédie française,
c'est
plutôt
comédie,
classique.
C'est une comédie, voilà, classique. C'est pas mal, c'est pas mal, allez.
Allez découvrir la vente au
oui.
Cinéma il est ce samedi 12 mai dès 21h.
Peut-être que les love addicts vont peut-être y trouver une thérapie au fond pour eux-mêmes. Sait-on jamais.
Peut-être Martine. Les Municipaux, une autre comédie française plutôt drôle d'ailleurs.
Voilà, ça, une vraie comédie de Éric Carrière et Francis Ginibre avec Éric Carrière et Bruno Lochet. Alors, je dirais que c'est l'histoire l'histoire de Port-Vendres, qui est un port magnifique situé en Catalogne, en Catalogne française. Et c'est un port qui est vraiment un très beau port et vraiment très français. Le maire est assez bling-bling. Les employés municipaux, ils sont à donf dans leur boulot et à donf aussi dans les acquis sociaux, à donf dans les cadences infernales et tout, et dans la déconne également.
Forcément.
Alors, ça, voilà, c'est ce qui fait qu'on les aime. Et peut-être qu'on a voté pour eux. Et si de plus, ils deviennent des héros, alors là, il n'y a vraiment plus aucune raison de ne pas s'inscrire à ce voyage dans la vraie vie. Alors, c'est un film qui est amusant parce que d'abord, les humoristes, là, on les aime beaucoup. C'est un duo assez drôle. Des gags, bon, ils sont, paraît-il, un peu éculés, mais enfin bon, on les aime comme ça, quoi, voilà. C'est tout.
Les municipaux.
Vous êtes en vacances, vous avez des comédies, voilà.
Hein. Profitez-en. Au cinéma,
voilà.
Il est le dimanche 13 mai dès 18h45 ou bien le mardi 15 mai à 21h, mai provincial Martine.
Une réalisation de Jean-Paul Siverac avec Andranik Manet, Gonzague Van Berveseles et Corentin Fila. C'est l'histoire de Étienne qui monte à Paris pour faire des études de cinéma à l'université. Il y rencontre Mathias et Jean-Noël qui ont la même passion que lui pour le cinéma. Et puis l'année qui s'écoule va bousculer un petit peu leurs illusions. Alors, il paraît que c'est un très beau film qui est apparemment tout simple, mais qui est très élégant de forme et qui montre une jeunesse attachante, inquiète, une génération de comédiens convaincants. Et j'ai lu que ça pourrait être vraiment presque le plus beau film de l'année. Ça, je pense qu'ils exagèrent un petit peu, mais un bon film, hors du temps et d'une sensibilité assez universelle. C'est sur la jeunesse, je dirais.
Mai provincial, le dimanche 13 mai, dès 21h. Martine, on finit avec le ciné-club de cette semaine, c'est Do the Right Things.
Voilà, c'est un film de Spike Lee qui a été réalisé en 1989 et que l'on vous offre en version restaurée, en 2016. Et alors, lorsqu'il était sorti en 89, Spike Lee a frôlé la Palme d'Or à Cannes et ça a été emporté par quelqu'un d'autre. Alors, il en a gardé un petit ressentiment, paraît-il. Alors, il joue lui-même dans son film, il se donne un rôle. Il y a également Danny Aiello, Ossie Davis, John Turturro, Richard Edson, Samuel L. Jackson, Bill Noon et beaucoup d'autres. Alors, je vais vous parler un peu, je vous rappelle qui est Spike Lee. Il est né en 57 à Atlanta, en Géorgie, et il est à la fois scénariste, réalisateur, producteur et acteur. Et son truc, c'est plutôt le cinéma engagé qui pousse au débat, à la réflexion, et c'est souvent marqué par une vision sans compromis sur la société américaine. C'est un réalisateur qui a réalisé près d'une cinquantaine de films avec Do the Right Thing, dont il est aussi le scénariste, le réalisateur et l'interprète. Il aborde le drame, il parle des différences, du racisme, mais il sait le faire avec humour, c'est sa signature. Il va être cité à l'Oscar du meilleur scénario original et Danny Aiello pour celui du meilleur second rôle. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, de la montée en tension raciale dans un quartier de Brooklyn, un jour et un soir, au croisement de deux quartiers. C'est littéralement le jour le plus chaud de l'année. Cette chaleur estivale va bientôt cristalliser les tensions entre noir et blanc. Mookie, un jeune afro-américain, travaille comme livreur de pizza avec Sal et Pino, qui sont, eux, italo-américains. Tout au long de la journée, alors qu'il livre le voisinage, il va se retrouver au centre de l'action, croisant toute une galerie de personnages, un handicapé vendant des photos de Martin Luther King, Radio Borjo, un voyou se baladant avec sa radio sous le bras, l'animateur d'une station radio locale, ou encore un vieux chef de quartier alcoolique, dont l'unique conseil est « Fais la chose juste, do the right thing ». Et il y aura une dispute entre Sal et Radio Borjo qui va tourner bientôt en émeute pendant la nuit. Le film a une construction théâtrale en deux actes, le jour et la nuit, où se mêlent plusieurs histoires, des personnages passionnants, ce qui permet de véritables performances d'acteurs, avec un groupe de trois personnages qui ne font que commenter les événements qui passent devant eux et qui font office, en quelque sorte, de cœur, comme dans les tragédies grecques. Le jour saisit la vie dans ce quartier multiethnique à la fin des années 80, avec beaucoup d'humour, de légèreté, et puis peu à peu le ton change, la violence affleure dans les échanges de paroles, on pressent que la vraie violence va survenir avec les petites querelles, avec la nuit, jusqu'à l'événement déclencheur de la tragédie. Alors, au-delà de la question du racisme, le film montre la vie et la dureté de la vie. C'est fait avec une certaine élégance et surtout une grande justesse et en même temps une très grande originalité dans la réalisation, dans la manière de suivre les petits groupes ayant chacun des codes distincts. Pour la vitalité des personnages, la progression de la tension, la justesse des dialogues, c'est du vrai cinéma inventif et coloré dont l'intrigue nous tient émotionnellement et c'est surtout un film important, qui pose les questions essentielles, en nous laissant le choix de la réponse d'ailleurs, en nous proposant la réponse de Malcolm X, justifiant toujours la violence quand il y a de l'injustice, ou la réponse de Martin Luther King, qui rêve, lui, de paix et d'égalité. Le titre du film est volontairement ambigu, « Fais ce qui est juste », alors soit la révolte de Mookie que Spike Lee incarne, montre-t-elle que pour lui, la violence est légitime, même si elle engendre d'autres violences. Donc c'est au spectateur de répondre, bien sûr. Alors vous allez retrouver des références intéressantes pour ceux qui vont les découvrir. Il y a des références à la nuit du chasseur, au dictateur. Il y a également une musique fabuleuse qui rythme toute l'histoire et qui n'atténue pas, au contraire, les tensions. Il y a Fight for Power de Public Enemy, Never Explain Love de Al Jarreau. Et il faut noter que le dernier film de Spike Lee sera en compétition cette année 2018 au Festival de Cannes. Et ce film s'appelle Black Lanceman, l'histoire d'un policier afro-américain infiltré au sein du Ku Klux Klan.
Le ciné-club de cette semaine, Martine, c'est toujours 5 euros ?
C'est 5 euros.
Avec l'association Oya Film, Do the Right Things, à découvrir ce vendredi 11 mai dès 21h. Martine, on se retrouve en grande forme dès la semaine prochaine.
Mais absolument, et puis surtout, rendez-vous au ciné-club.